Madame Peyramore, nous vous remercions de témoigner de votre travail dans le cadre du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Nau. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans ce qu'est votre fonction dans l'établissement ?
Donc moi, je suis Camille Peyramore, donc je suis assistante sociale. Donc sur deux services, j'interviens à 60% sur l'hospitalisation complète, donc au niveau du centre, pour les personnes qui sont hospitalisées sur les deux étages. Donc là, ça va plus être mes missions, ça va plus être pour tout ce qui est préparer un petit peu le retour à domicile, mettre en place des aides si besoin, les accompagner dans diverses démarches administratives. Et après, je vais accompagner également, enfin, j'interviens à 40% sur l'équipe mobile EMIPAS, donc ça qui est une équipe mobile qui intervient auprès des personnes qui ont été victimes d'un AVC, qui sont à la maison, et on intervient, du coup, nous, on se déplace sur tout le département de la Creuse. Voilà. Donc là, c'est plus pour les accompagner aussi pour quand il y a besoin de réévaluer les besoins suite à cet AVC, les accompagner dans ces changements suite aux séquelles, accompagner aussi les aidants à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai diverses missions sur ces deux missions et ces deux services.
À quel moment entrez-vous en relation avec les patients ?
Alors, au niveau de l'établissement du centre, soit il peut y avoir les patients eux-mêmes qui viennent, qui sont informés dès leur admission, en fait, qu'il y a une présence d'une assistante sociale. Donc, soit ils peuvent par eux-mêmes nous solliciter, venir nous voir en nous expliquant qu'ils souhaitent nous rencontrer, faire le point un petit peu avec nous, préparer un petit peu leur retour à domicile. Lors de leur arrivée, il y a également du coup un premier échange qui est fait, un premier examen clinique avec les médecins. À ce moment-là, du coup, le médecin présente un peu aussi les professionnels de l'établissement. Donc il informe qu'il y a une assistante sociale. Donc après, ça peut être sur sollicitation aussi du médecin que nous, on va rencontrer, on se présente et qu'on va rencontrer la personne hospitalisée. Et parfois, ça arrive tous les mardis, en fait, chaque semaine, on a des réunions staff, où du coup, chaque matin, le mardi matin, les médecins vont rencontrer chaque patient. Et nous, le mardi après-midi, on refait le point avec chaque professionnel sur chaque situation, chaque patient. Et à ce moment-là, du coup, nous, il peut y avoir des situations, des choses qui nous interpellent, où on se dit, ah ben là, le patient va pas tarder à sortir, de ce que vous dites, il a l'air... Il semble qu'il a quand même quelques difficultés dans certaines activités de la vie quotidienne. Donc là, de nous-mêmes, on va également se présenter à la personne pour voir avec lui s'il a des besoins, s'il souhaite qu'on fasse un point sur sa situation, s'il souhaite échanger sur ses droits. Ou juste, des fois, c'est juste une information qu'on fait. Et puis après, il revient nous voir. Après réflexion, il revient nous voir. Tout dépend de chaque situation, de chaque patient.
De votre place, dès que vous les rencontrez au début, qu'est-ce qu'ils expriment ?
Alors après, c'est
vous avez une place évidemment particulière, ouais. Néanmoins, votre oreille peut prêter, ouais. Donner la place à toute une série de... Oui. De choses.
Mais c'est très fluctuant. Après, c'est vrai que je pense que tout dépend on le voit du coup, tout dépend du lien aussi qu'on va instaurer avec la personne lors du premier contact. Il y a des personnes qui vont tout de suite nous livrer leur peur du retour à domicile, leur peur suivant la raison du coup de leur présence au niveau de l'établissement. Il y a des personnes qui vont nous citer, enfin nous dire que ben voilà, enfin. Elles vont jamais récupérer, leur vie va jamais redevenir comme avant. Il y en a qui ont peur justement de ce retour, de dire mais dans quelles conditions je vais rentrer, comment je vais faire, je vais plus être capable de faire ça. Après il y a des personnes tout de suite qui à l'inverse du coup ont peu conscience, elles sont un peu dans le déni du coup ce qu'on disait, qui ont peu conscience de leur au final de leur situation actuelle. Et qui se disent « Oh, mais non, enfin, à la maison, ça va aller, du coup... » Parce que c'est vrai qu'après, souvent, ce qu'on leur explique, c'est que dans le service hospitalier, l'environnement est quand même adapté aux séquelles, même au niveau de leur chambre. Enfin, tout est fait pour que ça soit adapté. Il y a le personnel, ils sortent de leur chambre, ils appuient sur la sonnette, le personnel est quand même est là. À la maison, souvent, l'environnement n'est pas si adapté que ça.
Ils ne veulent pas voir ce qui les attend.
Voilà. Ben, c'est que c'est compliqué pour eux, en sachant qu'on est dans un environnement où tout est, tout est quand même sain, adapté. On ne s'imagine pas, du coup, c'est difficile après de se projeter, pour certains patients, de se projeter dans le retour à la maison, dans les conditions de vie qu'on avait avant l'hospitalisation. Donc c'est vrai qu'on est là un peu aussi pour les accompagner. Alors ça dépend des situations, mais il y a certains, on accompagne aussi un petit peu sur ce projet-là du retour, les aider à s'imaginer un petit peu ce retour à là dans leur vie.
Oui, il s'agit d'exprimer l'avant et l'après, là.
Et c'est vrai que je pense que du coup, on est l'interlocuteur, nous, pour le coup. On les aide à exprimer du coup c'est un petit peu ces choses-là et de les accompagner tout au long de l'hospitalisation pour se préparer au mieux pour le retour à la maison, en sachant que dès le début, pour les permettre aussi de nous, s'il y a des choses qu'ils veulent pas, on n'est pas là pour imposer. Donc après c'est ce qu'on leur dit, si vous ne souhaitez aucune aide au final, du coup on mettra rien en place. Après on les orientera, on leur laissera. Souvent il y a des personnes où qui ne souhaitent pas d'aide à la maison. Nous, on se dit, non, il y aurait quand même besoin un petit peu, de notre regard, en tout cas de professionnel, on se dit, il y aurait quand même besoin un petit peu, on est un peu inquiet, ou on se dit, il y aurait besoin un petit peu de passage. Donc après, on leur laisse toutes les informations. Quand vraiment ils ne veulent pas, on leur laisse après toutes les informations pour pouvoir se retourner si jamais il y a besoin.
Vous avez une idée de ce qu'il est, des réserves qu'ils ont pour que vous... pour le retour, pour une aide au retour.
Il y a des personnes, accepter l'aide, c'est accepter du coup les séquelles qu'on a. Donc c'est vrai que les personnes qui sont dans le déni, elles voient pas pourquoi elles auraient besoin d'aide. Après, il y a des personnes où ça va être le fait de rentrer dans cette intimité à la maison, d'avoir différents intervenants d'extérieur, de différents... passage d'une association d'aide à domicile, que ce ne soit pas la même personne tous les jours, à des heures différentes. Pour eux, tout ça, ça va être bousculer leur quotidien à la maison et ils ne veulent pas. Ils préfèrent que ça soit fait dans le cercle familial, que ça soit l'entourage des fois qui aide, plutôt que d'avoir tous les jours quelqu'un. Ils se sentent, y a des personnes qui l'ont exprimé, qu'ils ne se sentaient plus chez eux avec tous ces passages, ces gens qui rentrent, qui sortent. Et jamais la même personne. C'est vrai que c'est compliqué pour eux, ça.
Et du fait qu'il y ait quelquefois un besoin de temps pour la prise de conscience, il y a des gens qui vous rappellent après coup, pour quand ils réalisent qu'ils ne sont pas prêts à assumer la vie à la maison.
Alors, souvent, c'est vrai que moi, je peux laisser du coup mes coordonnées en leur disant, si jamais il y a besoin à la sortie, vous me passez un petit coup de fil et je vous réoriente. Après, souvent dans ces situations-là, moi, je leur laisse les coordonnées automatiquement de mes collègues de secteur pour qu'ils puissent faire le lien directement avec eux. Et après, ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes, par contre, qui sont victimes d'un AVC, qui passent du coup d'abord au centre, ici, au centre de rééducation, moi, faisant partie également du coup de l'équipe mobile EMIPAS, souvent les personnes donc AVC du département de la Creuse, je m'occupe de prendre le suivi dès l'hospitalisation ici. Comme ça, après, j'ai ce regard et je peux réintervenir avec l'équipe mobile. Donc c'est vrai que souvent, comme je dis aux gens, ça permet aussi, suivant ce qu'on met, de réadapter après, d'enlever s'il y avait trop ou de mettre plus d'aide si besoin. Ou à l'inverse, il y a des personnes dans le cadre des MIPAS, justement, qui au début voulaient rien pendant l'hospitalisation. Et après, une fois à la maison, m'ont recontacté en disant « oui, j'aimerais bien refaire le point ». Et donc là, c'est vrai que d'être sur ces deux services, en tout cas pour les personnes victimes d'AVC, me permet du coup de... Et puis comme ils me connaissent déjà de l'hospitalisation, ce lien est déjà fait. Et du coup, ça me permet de réintervenir assez rapidement à la sortie pour eux.
En fait, votre travail déborde très largement votre fonction d'assistante sociale.
Oui. Pour moi, ça fait partie de nos missions, comme ça, un petit peu d'accompagnement, ça fait partie du rôle pour moi de l'assistante sociale.
Vous voyez évoluer, donc, bon, vous dites bien qu'au début, il y a l'inquiétude, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais être, qu'est-ce... Vous voyez évoluer leur discours au fil de l'hospitalisation ?
Oui, pour certains, oui, parce que justement, les prises en charge en rééducation leur permet de semaine en semaine, il y en a qui voient justement leur progrès. Et puis ce point quotidien, enfin ce point tous les mardis justement avec les médecins permet de refaire aussi justement le point sur l'évolution de la rééducation, de la réadaptation. Et justement, enfin c'est cet aspect-là rééducatif permet justement à la personne de reprendre confiance en elle. Enfin quand la personne voit qu'elle a évolué, et je pense qu'ici les professionnels sont attentifs en plus à bien montrer quand il y a une petite évolution. C'est vrai que c'est bien. C'est bien montré, spécifié à la personne pour qu'elle en prenne conscience. Et du coup, ça lui permet petit à petit, après, de se dire « Ah oui, quand même, j'ai progressé, il y a du plus. » Donc, des fois, voilà, la réflexion peut évoluer. Puis après, on propose aussi pas mal de... Suivant aussi, ça dépend forcément de la situation. Mais avant la sortie, des fois, on propose aux personnes qui le peuvent de faire des sorties week-end pour revenir justement dans leur... chez eux un week-end quand il y a des proches qui peuvent être présents également pour évaluer. Ça permet du coup là aussi de à la personne de revenir dans ses conditions de vie avant une sortie définitive et de se dire ah ben là en fait j'ai eu des difficultés pour je dis n'importe quoi des fois pour faire à manger et quand elle vient du coup c'est des choses qu'on peut retravailler, enfin qu'en tout cas que les ergothérapeutes voilà peuvent retravailler pour trouver des petites astuces ou voilà. Donc ça permet aussi de réadapter suivant les besoins de la personne. Donc c'est vrai que c'est... Enfin, il y a plusieurs, en fait, possibilités pour accompagner la personne, voilà, dans ce besoin, enfin, dans cette préparation de retour à la maison.
Qu'est-ce que vous voyez de plus par rapport à ce discours des patients, puisque vous avez une place où vous recueillez quand même beaucoup de choses.
Après, je trouve que dans la place, enfin, tout dépend en fait. Je trouve que tout dépend de notre de notre comportement. Enfin, la première rencontre avec la personne, on le voit. Enfin, suivant la première rencontre, suivant comment on va se comporter, comment on va être. Il y a des liens qui se font directement ou pas. Et je pense que c'est ce qui permet après aussi d'accompagner le plus possible. Bon, enfin, par exemple, il y a eu des situations où le patient avait beaucoup de mal avec le statut du médecin. Enfin, c'était un peu conflictuel entre les deux. Et là, on le voit, quand la relation est conflictuelle, la personne se braque, elle ne dit rien, elle, sur ses projets, sa vision est négative, et du coup, ça aide pas à préparer tout ça et à bien accompagner et à bien écouter la personne, parce que du coup, il y a deux... La relation est conflictuelle, il n'y a pas la même écoute... Du coup, il n'y a pas la même perception en fait, de ce que la personne a voulu dire, la même compréhension. Et du coup, là, c'est des situations qui peuvent être un peu, des fois, complexes. Donc, je pense que, voilà, c'est... Enfin, nous, en tout cas, de notre regard assistante sociale, c'est vrai que, voilà, on...
Enfin, la multiplicité des intervenants permet à chacun de trouver le meilleur lien.
Oui. Oui, et puis après, il y a des personnes qui... Je pense qu'il y a le contact, il se fait plus ou moins aussi avec... Enfin, ces échanges, ils se passent plus ou moins... Enfin, c'est plus ou moins fluide avec tel ou tel professionnel. Je pense que suivant aussi chacun notre caractère, notre façon d'être, de se comporter, de notre posture, du coup, ça laisse l'ouverture comme ça à la personne de pouvoir se confier, se livrer. Et je pense qu'à partir du moment où il y a ce lien... après, toute la prise en charge et la préparation du retour à domicile est beaucoup plus simple.
Bien sûr. Est-ce que dans les patients, vous relevez fréquemment de l'agressivité, de la revendication ?
Moi, je dirais quand même de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est lié aussi à la situation... qui a eu le contexte sanitaire, tout ça, mais c'est vrai que Il y a des personnes, c'est compliqué pour. Mais ça peut être sur différents domaines. Ça peut être des personnes qui en ont marre des fois d'être. Qui se sentent baladées de service en service, pas écoutées justement sur leurs difficultés, sur leur. Enfin, les personnes souvent qui sont hospitalisées en plus depuis un moment, qui font différents établissements, il y a ce manque de ce chez-soi. Enfin, donc voilà, il peut y avoir. Il peut y avoir voilà cet agacement, mais par le fait de un ras-le-bol en fait, la personne en a marre sur tout ça. Après, c'est vrai que après, je pense qu'il y a eu aussi il y a des moments aussi où la situation, il y a des personnes qui ont besoin sur le moment et qui comprennent pas que des fois les aides-soignantes peuvent pas répondre quand il y a l'alerte en tout cas qui est sonnée, qui peuvent pas répondre tout de suite ou qui sont différents, oui, qui sont donc ça aussi des fois il y a des personnes qui ont moins cette patience là et qui peuvent être plus dans l'agressivité par rapport voilà à cette prise en charge après mais par les aides-soignantes. Et puis des fois on peut avoir des personnes qui sont aussi le fait des intervenants à domicile, le fait que de plus en plus on nous fait part des conflits un petit peu avec les associations sur le fait que la personne soit n'arrive pas à l'heure, qu'elle fait pas les tâches on va dire correctement pour la personne, ou que du coup elle vient qu'une demi-heure et elle repart alors que la prise en charge était d'une heure, ou ce turnover justement de différents professionnels qui viennent chez eux.
Vous avez un rôle de médiation dans ces cas-là, non ?
Oui, si, un petit peu. On le fait quand même. On essaye d'apaiser la relation. Surtout moi, par exemple, dans le cadre de l'équipe mobile EmiPass, on est beaucoup en lien avec les différents organismes, les différents partenaires locaux. Donc c'est vrai que dans une situation, quand on intervient à domicile, que la personne elle a déjà une prise en charge, que c'est compliqué avec l'association, notre rôle, c'est quand même essayer de coordonner aussi, là, pour le coup, le mieux la prise en charge et le maintien à domicile, du coup. Donc, on essaye d'apaiser, on fait le lien avec la responsable de secteur, on essaye de voir quel est le problème et comment on peut essayer, de le régler. Donc, si on a un... Même ici, après, quand les personnes nous font part d'une mésentente avec tel ou tel professionnel, alors, avec l'accord de la personne, après, on essaye quand même d'en discuter pour apaiser les choses et voir comment on peut, parce que sinon ça gâchera toute l'hospitalisation de la personne. Enfin, si elle est si dès le début elle se met en, enfin, elle est en colère contre un professionnel ou contre du coup un mode aussi, une sorte de prise en charge ou en tout cas au niveau de l'établissement, du coup ça va pas l'aider dans la rééducation. Donc c'est pour ça que c'est important là de faire les liens avec les différents services concernés pour essayer d'apaiser les choses.
On pensait demander également aux professionnels, donc de votre place, quel ressenti, quel vécu vous avez généralement des usagers et de leur rapport aux soins.
Notre regard par rapport
au... Oui, par rapport.
En tout cas, moi, du regard du centre, je trouve que quand même, il y a un bon, justement... je trouve que tout leur est permis pour avoir quand même un bon suivi, un bon accompagnement. Il y a différents professionnels qui permettent justement différentes prises en charge. Quand on voit une personne qui va être très douloureuse, qui a pas justement... qui est très inquiète pour des soins, des choses comme ça. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir la psychomotricienne. Donc on fait des liens en fait entre tous les professionnels, toutes les ressources qu'on a pour que la prise en charge se passe le mieux possible. Donc déjà, enfin, je trouve qu'on a des bonnes bases en tout cas pour permettre ce bon soin, ce bon accompagnement. Donc je trouve qu'après on est assez, en plus on est tous à l'écoute quand même, voilà. Enfin, je trouve qu'on a tous cette écoute auprès du patient. Ce côté non-jugement aussi, de chacun a une situation. Et ça, c'est peut-être plus moi, mon côté, on va dire, social. Mais c'est vrai que du coup, toutes les situations sont différentes. Et il n'y a pas de jugement. On reste neutre par rapport à quelqu'un qui... j'ai déjà rencontré tellement de situations et des personnes vivent encore dans des contextes très précaires. Mais ça leur va, eux. C'est leur vie, elle est comme ça, ça leur va. Et on n'est pas là pour changer la vie des gens quand ça leur va, qu'ils ne se mettent pas en danger. Donc, je trouve que ouais, non, cette il y a cette écoute, il y a cette possibilité de médiation, de prise en charge par les différents professionnels. Donc je trouve qu'il y a ce bien-être qui peut être apporté justement aux personnes, quoi.
Oui, c'est le point que vous souligneriez, cette disponibilité, cette écoute.
Ici, oui, en tout cas, je trouve que, en tout cas, voilà, au niveau du centre, je trouve que oui, il y a cette possibilité-là, en tout cas, pour les patients d'avoir ces prises en charge. Il y a ces liens, et puis il y a ces liens réguliers qui sont faits entre les différents professionnels. Donc c'est vrai que, on se sollicite les uns les autres. Donc du coup, je trouve que pour la prise en charge globale de la personne, c'est important parce qu'on fait tous des liens. On sait où la personne en est dans sa rééducation. Et chacun peut apporter sa petite graine, justement, pour essayer de, voilà, que ça se passe le mieux possible et qu'elle sorte après, que ce soit au niveau rééducation ou après, dans son projet de retour à domicile, que ça se passe le mieux possible, quoi. Et il y a ces familles qui sont aussi l'entourage qui est intégré. Lorsqu'on fait des synthèses, des réunions, voilà, il y a cette possibilité-là aussi de place à l'entourage familial qui est faite, quoi. Donc ça, je trouve ça aussi
dans les réunions important. Les patients ont une place,
oui,
présente, ils peuvent être présents.
Après on a différentes, on a des réunions, ce qu'on appelle il y a une réunion où c'est le P3I, où c'est du coup la personne qui est acteur en fait de cette réunion. On le prépare avant avec elle, et lors de cette réunion, c'est lui qui va répondre à son projet de vie, en fait, et aux différentes questions qu'on va lui poser, qui ont déjà été préparées en amont. Donc c'est vrai que, par exemple, ça, ce genre de réunion, ça permet vraiment à la personne d'être acteur, de dire où il en est dans sa rééducation, et surtout ses objectifs à lui, ses projets, et qu'est-ce qu'on va faire au niveau rééducation pour répondre à ses objectifs. Donc voilà, et en même temps, les professionnels sont là pour dire si c'est viable ou pas. Donc c'est vrai que je trouve c'est intéressant pour la personne d'être acteur comme ça de son projet.
Oui, oui, c'est ce dispositif-là est vraiment très précieux pour permettre à la personne d'être vraiment acteur de son projet pour la sortie, c'est sûr que
Et on le voit, c'est plus pendant l'hospitalisation que ce projet, vraiment, que la personne, elle est plus pour moi, elle est plus actrice pendant l'hospitalisation que une fois qu'elle est rentrée à domicile. Parce qu'après, c'est vrai moi, je le vois ça dans ma mission, plus dans mon intervention au niveau de l'équipe mobile et MIPASS. Lorsqu'il y a déjà des aides de mise en place, des fois, c'est qu'il y a déjà tous ces intervenants. C'est compliqué de modifier des fois les choses. La personne ose des fois moins exprimer aussi ou faire remonter son mécontentement, ou parce qu'après les personnes interviennent à la maison, donc elle a peur. C'est plus compliqué. Elle a peur qu'au final après elle soit prise à partie, ou enfin voilà, elle s'imagine une fois que la personne est à la maison et qu'il faut tout enlever, tout remodifier, tout, que les intervenants, il y a déjà des liens, c'est plus compliqué pour la personne en elle-même.
Oui, le quotidien enlève un peu la...
De changer, de faire ces modifications, en tout cas.
Qu'ajouteriez-vous pour conclure sur cette... ce questionnement sur les relations entre les professionnels et les usagers?
Non, je dirais juste que que pour moi, c'est important qu'il y ait... cette relation, elle est importante pour mener à bout le projet de la personne. Donc sans cette relation-là entre le professionnel et le patient, la personne en elle-même, on ne peut pas mener, à bout et dans de bonnes conditions correctement son projet. Ça vient vraiment des deux. Il n'y a pas une personne plus haute que l'autre dans cette relation. Il faut prendre en compte les besoins de la personne, et nous après on est plus on a les ressources en fait pour mettre en place ce qu'il faut pour la personne. Mais c'est vrai que sans elle à la base, on peut rien faire. Si elle n'est pas actrice de sa situation, si elle ne veut pas, si on pourra rien faire sans elle.
Bien. Nous vous remercions pour cet éclairage, et en particulier sur le point sur lequel vous insistez de cet usager acteur.